Merci au groupe de louanges de nous avoir entraînés dans ce moment d'adoration et de prière. J'invite maintenant Nicolas Michel, qui va nous apporter, comme je l'ai dit tout à l'heure, la prédication sur le thème choisi, quelques derniers mots remplis d'espoir. Je vais prier. Oui, Seigneur, tu veux nous parler. Tu veux nous parler au travers de Nicolas ce matin, et nous voulons, Seigneur, te demander d'ouvrir nos cœurs, nous mettre dans une attitude d'écoute où nous nous laissons toucher, où nous nous laissons interpeller par ta parole et par le message que tu as donné à Nicolas, le message que tu lui as demandé de nous partager. Oui, Seigneur, je te prie pour Nicolas, pour qu'il se sente dans ta présence, qu'il soit béni, qu'il soit guidé tout au long de ce partage qu'il va nous apporter. Oui, Seigneur, nous nous mettons tous maintenant devant toi et à ton écoute. Amen.
Alors, bonjour, c'est un plaisir d'être ici avec vous pour vous partager la parole de Dieu. Merci aussi pour ce beau temps de louange et puis pour l'expression de la joie dans les rythmes. Mes beaux-parents qui sont là aujourd'hui, qui habitent au Congo, sont habitués à des capacités rythmiques un peu plus évoluées de par la congrégation. Mais je crois que Dieu apprécie nos rythmes, même si on n'est pas aussi dans le temps. Je vais aujourd'hui clore la série de prédications que Priscille nous a donnée. C'est un peu une grosse responsabilité. C'était une magnifique série, je crois qu'on l'a tous ressenti comme ça. Donc aujourd'hui, je vais lire le dernier chapitre, le chapitre 5, et puis vous parler sur la base de ce chapitre, mais aussi apporter une conclusion à cette série. Alors, les anciens, ça commence par vous. Ayez vos oreilles ouvertes. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous. Moi qui suis un ancien avec eux, et témoin des souffrances du Christ, moi qui ai part à la gloire qui va être révélée. Paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Non par cupidité, mais par dévouement. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui vous sont échus en partage, mais devenez les modèles du troupeau. Et quand paraîtra le souverain berger, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Alors maintenant, on passe aux jeunes gens. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Et maintenant, nous tous. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles, il accorde sa grâce. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont réservées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ, vous rétablira lui-même après que vous aurez souffert un peu de temps. Il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la domination pour les siècles. Amen. Je vous ai écrit ces quelques mots par Sylvain, que je considère comme un frère fidèle, pour vous exhorter et vous attester que c'est à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. La communauté des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres d'un baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes en Christ. Paix à vous tous qui êtes en Christ. Au cours de cette série sur 1 Pierre, nous nous sommes posé la question suivante. Qu'est-ce que cela veut dire d'être le peuple de Dieu? Quelles sont les promesses qui sont associées avec cet appel? Quelle est la mission que cela comporte? Quels sont les combats que cela implique? Pierre répond à ces questions en s'adressant à une communauté qui est désorientée par les épreuves qu'elle traverse. Nous sommes dans une situation différente des destinataires de Pierre. Ils subissaient de leurs contemporains des insultes, des calomnies, des discriminations, des intimidations, des violences, et parfois la torture et la mort. Nous ne sommes pas soumis à de pareilles persécutions, bien que ça pourrait changer, et bien que d'autres chrétiens dans le monde les subissent aujourd'hui. Mais nous avons cela en commun avec les destinataires de Pierre, que nous faisons l'expérience de la nature déchue de l'homme, en nous et autour de nous. Face au péché que nous commettons, face au péché que d'autres commettent contre nous, face à nos échecs, face aux circonstances difficiles que nous rencontrons et qui sont indépendantes de nous, nous pouvons, comme les destinataires de Pierre, être désorientés. Est-ce que Dieu est là? Y a-t-il un but à nos rassemblements? Est-ce que ma foi fait une différence dans ma vie et autour de moi? Qu'est-ce que cela veut dire d'être le peuple de Dieu dans un monde qui est marqué par la chute? La réponse que Priscille a développée dans cette série, c'est que ce qui nous caractérise en tant que peuple de Dieu, c'est que nous sommes une communauté animée par l'espoir. Une communauté animée par l'espoir. Voici le titre de toute cette série. Priscille, sur la base de 1 Pierre, nous a dit, voilà, c'est ça qui vous caractérise. Animé, cela parle, hein, anima, cela parle d'abord de l'âme de notre communauté. Ce qui nous habite au fond de notre être, c'est cet espoir. Un espoir que Pierre appelle espoir vivant. Il nous dit, Dieu vous a fait naître à nouveau pour un espoir vivant. Animé, cela parle aussi de mouvement, hein, animation. Le mouvement, ce qui nous motive, ce qui est la motivation de notre mission sur cette terre, et le contenu, au fait, de ce que nous apportons aussi, c'est cet espoir vivant. Alors, le mot espoir, on comprend bien. Mais espoir vivant, ça veut dire quoi? C'est là que je vais entrer dans le corps de ce prêche et que nous allons pénétrer dans les profondeurs de cette lettre de 1 Pierre. Espoir vivant. Vous avez entendu les derniers mots de Pierre. Pierre termine son épître par deux petits mots. En Christ. Paix à vous tous qui êtes en Christ. Cette petite expression, dans le grec, c'est en Christo. Elle apparaît avec son équivalent en curio, qui veut dire dans le Seigneur, hein, en Christ ou dans le Seigneur. Elle apparaît pas moins de 123 fois dans le Nouveau Testament. C'est une expression favorite de Paul. Et cette petite expression qui termine la lettre de Pierre est lourde de sens. Ce « en Christ », et là, je regarde François parce que c'est une discussion qu'on a eue justement dans la préparation au baptême. Ce « en Christ », premièrement, ça veut dire que, au fait, Dieu, quand il nous regarde, il regarde Christ. Ça veut dire qu'il nous applique à nous ce qui est vrai de Christ. Christ est juste, il nous regarde comme juste. Donc ça, c'est un aspect plutôt légal. Il applique ce qui est vrai de Christ à nous. Mais ça ne veut pas seulement dire ça. Ça a aussi un sens plus existentiel. Ce « en Christ », ça veut dire que nous sommes unis à Christ. Et pour expliquer ce que ça veut dire d'être unis à Christ, Paul utilise l'image du mariage entre l'homme et la femme. Il dit « l'homme et la femme, lorsqu'ils se marient, deviennent une seule chair ». C'est la même chose qui se passe avec vous et Christ. Vous êtes unis à lui, dans cette même intimité. Alors, pensez à votre couple, ou bien à vos parents, ou des gens que vous connaissez. Vous voyez bien que dans un couple, on est influencé par le caractère de notre conjoint, à force de vivre avec. On s'influence l'un l'autre. Hein, je suis heureux d'être influencé par ma femme. Et puis, on est aussi influencé par ce qui arrive à notre conjoint. Que ce soit des choses joyeuses ou des choses difficiles, ça a un impact sur nous. Dès lors que nous sommes unis à Christ, nous entrons donc en connexion avec qui il est, mais aussi ce que nous vivons devient lié à ce que lui vit. Ça va être important pour comprendre ce que Pierre veut nous expliquer. Non seulement nous sommes influencés par qui Christ est, mais ce que nous vivons devient lié à ce qu'il a vécu, ce qu'il vit et ce qu'il vivra. Donc pour expliquer à ses destinataires qui ils sont, hein, ils sont désorientés, ils sont sous ces persécutions, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Où est Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que notre foi est véritable? Est-ce qu'on s'est trompé? Pour expliquer à ses destinataires qui ils sont, ce qu'ils sont appelés à vivre et à faire, et pourquoi ils font face à la souffrance, Pierre revient donc toujours à une personne, Christ, à son caractère et à sa destinée. La communauté chrétienne est une communauté animée par un espoir vivant. Car cet espoir, au fait, ce n'est pas juste une pensée. Cet espoir, il est basé sur une personne qui est vivante. Et on est lié jusqu'au très fond de notre être à cette personne et aux événements de sa vie. Alors, il y a un événement charnière dans la vie de Christ qui va nous permettre de comprendre ce que globalement nous vivons en tant que peuple de Dieu, en tant que communauté animée par l'espoir, comme Priscille nous a dit. Pierre nous dit, Dieu nous a fait naître à nouveau. La nouvelle naissance, ça fait qu'on devient, on devient cette nouvelle personne, et aussi cette nouvelle communauté, ce nouveau peuple. Donc là, c'est clé. Dieu nous a fait naître à nouveau pour un espoir vivant au travers de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alors, qu'est-ce que la résurrection a changé dans le monde? Pierre nous dit que dès lors que la résurrection s'est passée, il y a quelqu'un qui a rappelé la résurrection tout à l'heure dans la prière, hein, dès lors que la résurrection a eu lieu, la fin des temps a commencé. Le dernier jour n'est pas encore là, mais la fin des temps a commencé. Dès lors que la résurrection a eu lieu, la fin des temps a pénétré notre monde. et elle a commencé à se propager jusqu'à ce que Christ revienne. Donc notre espoir, il est vivant parce qu'il est, ancré dans un événement du passé, la résurrection, qui permet que nous vivions déjà maintenant les prémices de la vie du futur. On est entre la première venue de Christ, sa résurrection et son retour, et au fait, sa première venue, elle fait que quelque chose a éclos. C'est pas juste qu'on attend un événement futur. Quelque chose a éclos, a démarré et est actif en nous, personnellement, et en nous en tant que communauté. C'est pour ça que notre espoir, il est vivant. Nous vivons dans la tension entre... Pardon, j'ai la gorge un peu sèche. La tension entre le mot espoir et le mot vivant. Le mot espoir, il nous dit qu'il y a quelque chose qu'on attend. Il y a quelque chose qui n'est pas encore réalisé. Le mot vivant nous dit que cette réalisation qu'on attend, elle est certaine. On peut être sûr que cela va se réaliser parce qu'on sait que ça a déjà commencé et que cette dynamique du royaume de Dieu qui a déjà commencé, plus rien ne va pouvoir l'arrêter. Du moment que la résurrection a eu lieu, la victoire est déjà là, simplement elle n'est pas encore complète. Alors, sur la base de notre passage, j'aimerais avec vous réfléchir un petit peu à qu'est-ce que c'est que cette vie où on expérimente déjà les prémices, mais on est aussi encore dans un monde qui est marqué par la chute. Qu'est-ce que c'est que d'être la communauté animée par l'espoir dans un monde marqué par la chute ? Alors, dans le reste de ce prêche, merci beaucoup, c'est gentil. Dans le reste de ce prêche, j'aimerais me concentrer sur deux questions qui sont traitées dans notre passage. En effet, si on est animé par cet espoir vivant, cet espoir vivant du Christ ressuscité. Alors l'expérience du pas encore, hein, ce qui n'est pas encore de ce qu'on voit, on ressent déjà, on vit les prémices du futur, mais on est dans le pas encore. Cette expérience du pas encore sera forcément vécue dans une certaine mesure et de manière plus ou moins forte à différentes périodes de notre vie. Cette expérience du pas encore sera forcément vécue comme une adversité. Qui dit adversité dit combat. La première question qui vient alors à l'esprit, c'est dans ce combat, qui est l'adversaire ? La question qui suit, c'est avec quelles armes devons-nous le combattre ? Pierre, dans sa lettre, nous parle de deux adversaires différents. Le premier adversaire dont nous parle Pierre est seulement implicite dans notre passage. Notez dans notre passage ce que Pierre demande aux anciens. Notez spécifiquement ce qu'il leur demande de ne pas faire. Il leur demande de ne pas servir à contre-cœur, de ne pas servir pour l'appât du gain, en utilisant le pouvoir pour contrôler les autres. Notez qu'il a besoin de demander aux plus jeunes de se soumettre aux anciens. Il a besoin de nous tous nous exhorter à ne pas être orgueilleux, mais à être humbles les uns envers les autres. C'est qui l'ennemi dans toutes ces choses ? Nous-mêmes. Ou plutôt, comme le dit Pierre, les désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Pierre utilise ici le langage du conflit armé, de guerre entre deux armées. Pourquoi est-ce qu'on rencontre ce combat à l'intérieur de nous ? Là, nous faisons l'expérience qu'on est encore dans un monde déchu à l'intérieur de nous-mêmes. Ce n'est pas les autres qui nous embêtent. Hein. C'est à l'intérieur de nous-mêmes que nous avons cette tension d'être tentés par des désirs qu'il appelle charnels ou les désirs des hommes. Voilà, des désirs qui ne sont pas selon Dieu. Pourquoi rencontrons-nous ce combat? Rappelez-vous de l'image partagée par Priscille. Plus nous nous immergeons profondément dans l'amour de Dieu, plus la pression devient forte. Elle avait utilisé l'image du plongeur. Plus on descend en profondeur dans l'amour de Dieu, plus on a aussi une pression qui augmente autour de nous. Je vais vous donner une autre image similaire pour comprendre pourquoi est-ce que quand on se rapproche de Christ, il y a ces tentations qui viennent. Dans notre monde, ces désirs déchus, ces désirs charnels, c'est un peu comme l'air que nous respirons. Ils sont partout, ils remplissent l'espace spirituel. Si vous vous abstenez de ces désirs, parce que vous avez reçu cette nouvelle liberté en Christ d'y résister, si vous vous abstenez de ces désirs, vous créez comme un vide, un espace spirituel qui n'est pas rempli de cet air ambiant. Et vous imaginez bien que si vous avez un volume avec du vide, l'air ambiant commence à presser dessus. L'air n'aime pas le vide. Ok, donc c'est la même chose. Il y a tout d'un coup une singularité dans le monde spirituel. Il y a un être humain qui est en train de résister, qui n'est pas conduit par ça, alors il y a une pression qui s'exerce. Venons-en maintenant au deuxième adversaire dont Pierre nous parle dans notre passage. Le deuxième adversaire, il n'est pas intérieur, il est extérieur. Toute la lettre n'a cessé de parler de la souffrance des chrétiens expérimentés dans la persécution. Mais jamais Pierre n'a décrit les perpétrateurs de cette persécution comme les ennemis à combattre. Plus encore, la souffrance elle-même n'est pas présentée comme le problème à résoudre. En fait, toujours dans la logique que nous sommes unis à Christ, dans son être et dans sa destinée, Pierre affirme plusieurs fois dans sa lettre, et dans notre passage en particulier, que notre union à Christ ne nous unit pas seulement à sa gloire, mais à ses souffrances. Dans notre passage, Pierre s'y décrit comme ayant part à la gloire du Christ, doxa, le mot en grec, mais aussi comme témoin de ses souffrances. Pathéma. Puis il continue. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle, doxa, dans l'union avec Christ, après que vous aurez souffert un peu de temps, et le verbe souffrir ici, pasco, est le verbe dont vient le nom souffrance, pathéma. Donc on est exactement dans la même. Dans la même thématique. L'argument complet, pour le trouver, il faut remonter un tout petit peu plus en avant, dans l'introduction au fait de notre passage, dans le chapitre 4, où Pierre dit « Dans la mesure où vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous de sorte que vous exultiez de joie lors de la révélation de sa gloire. » La souffrance n'est pas l'ennemi à combattre, car elle est indissociable de notre union à Christ. Plus je me rapproche de Christ, plus je me rapproche aussi de ses souffrances. Car le Christ ressuscité, glorieux, qui trône à la droite du Père, a toujours les marques de la crucifixion dans ses mains, dans ses pieds, et la marque dans son côté. Ce qui vient maintenant est un enseignement difficile. Mais rappelez-vous que Pierre dit cela à des personnes qui traversent des circonstances horribles. Dans mes cours de l'histoire de l'Église, j'ai lu des textes qui décrivent les persécutions des chrétiens. En particulier, il y a par exemple l'historien romain Tacite qui parle de la persécution sous Néron. Lui-même a une haine, un dégoût profond pour les chrétiens, mais il dénonce la cruauté raffinée des tortures ordonnées par Néron. Et si vous lisez les récits de la persécution qui s'est passée en Gaule, à l'époque d'Irénée, vous allez pleurer. C'est absolument atroce. C'est à ces personnes-là qu'il est en train de parler. Pour Pierre, Dieu reste souverain même dans un monde déchu. Ce n'est pas Dieu qui provoque les épreuves, mais si elles arrivent, c'est qu'il les a permises et qu'il va les utiliser pour ses plans. En effet, les souffrances injustes, imméritées que nous traversons ne viennent pas sans la volonté de Dieu. Sinon, cela voudrait dire soit que nous sommes abandonnés de Dieu, soit que Dieu n'est pas souverain. Pierre nous dit au chapitre 3, « Si c'est la volonté de Dieu, alors il est mieux de souffrir en faisant le bien que le mal. » Plus tard au chapitre 4, « Ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu confient leur âme au Créateur fidèle en faisant le bien. » Pourquoi est-ce que Dieu permet la souffrance ? Dans notre passage, en parlant des épreuves que ces destinataires traversent, Pierre dit « Laissez-vous abaisser par la main puissante de Dieu » au travers de ces épreuves, hein, « afin qu'il vous élève au moment fixé. » Et plus loin, « Après que vous aurez souffert un peu de temps, lui-même vous rendra complet. » Il fera que vous soyez parfait. Donc quand il dit « après que vous aurez souffert un peu de temps », il n'est pas en train de dire « la souffrance, elle ne va pas durer longtemps, vous en faites pas ». Le « un peu de temps », ici, c'est notre vie. Il parle à une communauté dont des personnes sont mortes sous la persécution. Ça n'a pas duré un peu de temps, ça a duré jusqu'à la fin de leur vie. Le « un peu de temps », c'est par rapport à l'éternité. Alors, il ne dit pas que ça vient forcément, mais si ça vient, alors, selon la volonté de Dieu. Laissons-nous abaisser par la main puissante de Dieu sans nous révolter, parce que nous savons que Dieu nous relèvera. Pourquoi est-ce que Dieu permet la souffrance ? Pierre affirme à plusieurs reprises dans sa lettre que Dieu utilise les épreuves pour nous tester, pour nous raffiner. Il utilise à deux endroits dans sa lettre un langage qui est un langage de métallurgie. Hein ? Ne soyez pas surpris par les épreuves, les circonstances difficiles dans lesquelles vous êtes, dit-il. Et là, il utilise le mot purosis qui vient de pur, qui veut dire en grec le feu. Et ces épreuves, le mot français épreuve, hein, veut bien dire éprouver, on peut éprouver quelque chose en testant sa qualité et en le raffinant. Dieu veut nous raffiner pour qu'il n'y ait plus d'impureté dans notre métal. Et il y a quelque chose d'encore plus surprenant que nous dit Pierre. Il dit, la fin des temps a déjà commencé. Grâce à ça, vous vivez déjà la gloire de Christ. Vous êtes déjà habité par l'Esprit. Vous avez reçu déjà toutes ces choses. La fin des temps a déjà commencé. Donc, le jugement dernier a aussi déjà commencé par la maison de Dieu. Dieu est en train de juger l'Église au travers de ses épreuves, nous dit Pierre, afin qu'au jour où le jugement dernier arrivera, nous soyons épargnés. Il dit « Mieux vaut souffrir ça maintenant, être purifié par Dieu de ce qui est impur en nous, que de vivre ce que vont vivre ceux qui ont refusé Christ jusqu'au bout. » Paul nous dit exactement la même chose dans les Romains. L'ennemi contre lequel lutter n'est donc ni ceux qui nous font du mal, ni la souffrance en tant que telle. L'ennemi, c'est celui qui suscite ces persécutions, qui suscite ces épreuves. Je voudrais juste vous donner un petit exemple, parce que ici, les lettres du Nouveau Testament s'appliquent toujours à des circonstances spécifiques. Et là, on doit un petit peu traduire, parce qu'on n'est pas soumis à des persécutions, pareilles en tout cas. On peut être soumis un peu. Mais... L'ennemi nous attaque aussi au travers d'autres choses. Alors, je voulais vous donner un exemple des semaines qui ont entouré la naissance d'Élie, quand on était au Canada en train d'étudier la théologie. Une semaine avant sa naissance, on a découvert que notre appartement était infesté de punaises de lit. Ils appellent ça des bed bugs. C'est extrêmement difficile de s'en débarrasser. Il faut... la plus grande partie de ce qui est en tissu doit être lavée. Certaines choses, il suffit de les mettre dans le séchoir pendant une heure. Ensuite, emballer. Donc, imaginez que tous vos habits sont emballés dans des sacs. Chaque fois que vous avez besoin d'aller chercher une paire de chaussettes, il faut ouvrir un sac scellé, aller piocher dedans. Et puis, vous avez en plus deux enfants. Donc, voilà, ça s'accumule. Tout est emballé. Il faut tirer les meubles. Il faut passer l'aspirateur le long dans les interstices une fois par jour. Et puis, quand ils arrivent avec leurs produits, on doit quitter l'appartement pendant 2 ou 3 jours parce que c'est toxique. Et ensuite, on doit revenir et continuer de garder tout dans des sacs scellés pendant encore 2 semaines. Parce qu'ils doivent faire 2 traitements, en fait. Oui, j'ai oublié de dire ça. Ils doivent faire 2 traitements. Ok, ça, c'est 1 semaine avant la naissance d'Élie. Alors, ok, c'est compliqué. Maintenant, je vais dehors, je joue avec les enfants au ballon, et je veux faire un petit truc de... Je ne suis pas footballeur, mais voilà, un petit truc. Je saute par-dessus le ballon pour le shooter en arrière. Et je ne saute pas par-dessus le ballon, je saute sur le ballon. Schlack ! Je me déchire les ligaments. Vraiment bien déchiré, hein, propre en ordre. Voilà, donc j'ai été toqué chez mon voisin pakistanais pour qu'il vienne me tirer mes meubles. Et puis c'est des amis qui sont venus passer l'aspirateur. Priscille était enceinte jusque-là. Moi, j'avais le pied... voilà, alors... Ensuite, ces gens, on a dû quitter l'appartement, ils sont venus désinfecter et tout ça. Priscille a accouché, on est revenu. Et pendant la première nuit... Elle a développé une infection utérine. Sa fièvre est montée à 40. Et quand elle s'est réveillée, elle était couverte de boutons de punaises de lit. Pourquoi ? Parce que les gens qui étaient venus désinfecter avaient déchiré l'enveloppe qu'on avait mise sur le matelas et sur le sommier pour empêcher ces bêtes de sortir. Et Priscille, ayant eu une température extraordinaire, ça a attiré ces bêtes. Elles sont attirées par la température. Elles sont venues la piquer. On en rigole aujourd'hui, mais c'est vrai que sur le moment, c'était pas très drôle. Voilà. Au final, on a réussi à s'en sortir, mais Il y a des fois des circonstances comme ça où ça commence à vraiment devenir louche. Je vais relire le passage. « Laissez-vous abaisser par la main puissante de Dieu. » Donc, le contexte nous dit que, ici, Pierre est en train de parler des épreuves que nous traversons. « Afin qu'il vous élève au moment fixé, en jetant sur lui toute votre anxiété. » Ma traduction du grec, donc c'est une traduction assez littérale pour vous faire sentir un peu les choses. « Jetez sur lui. » Débarrassez-vous de votre anxiété. C'est vraiment le verbe de jeter quelque chose loin de soi-même. En jetant sur lui toute votre anxiété, car il se soucie de vous. Soyez sobre, soyez vigilant. Votre ennemi, le diable, comme un lion rugissant, rôde en cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en étant ferme dans la foi. Sachant que le même genre de souffrances sont réservées à vos frères et sœurs qui sont dans le monde. Le diable, en effet, non seulement provoque ces problèmes, ces épreuves, mais contrairement à Dieu qui les utilise pour notre bien, lui veut les utiliser pour notre perte spirituelle. Il veut les utiliser pour nous faire tomber dans le péché, par exemple en répondant au mal par le mal. Il veut les utiliser pour nous faire perdre la foi, en nous conduisant à perdre confiance en l'amour de Dieu pour nous. Reprenons l'image de Priscille. Plus nous plongeons en profondeur dans l'amour de Dieu, plus la pression devient forte. Plus nous nous approchons de Christ et les uns des autres pour entrer dans notre identité de peuple de Dieu, plus il devient visible que nous sommes des singularités, quelque chose qui ne devrait pas être là. Plus il devient visible que nous n'appartenons pas à ce monde. Vous vous souvenez, Priscilla parlait de ce thème aussi. Et donc, plus nous devenons la cible de celui qui est le prince de ce monde, le diable. Alors, maintenant qu'on a déterminé quels sont les deux ennemis, un ennemi intérieur, les désirs charnels, un ennemi extérieur, le diable qui tente d'utiliser nos circonstances pour nous décourager et nous faire pécher. La deuxième question qu'on veut traiter, c'est quelles sont les armes que Pierre nous appelle à utiliser. Après avoir expliqué à ses destinataires qu'ils sont une communauté animée par l'espoir, la première injonction de Pierre dans sa lettre, donc vous savez, dans les lettres, en général, il y a une première partie qui dit ce que nous avons reçu, puis après il y a une deuxième partie qui dit ce que nous sommes appelés à faire en réponse à ça. La première chose que Pierre nous demande de faire est la suivante. Après avoir ceint les reins de votre esprit, mis votre ceinture, au niveau de votre esprit, de votre pensée, donc il y a quelque chose d'une préparation mentale, en étant sobre, espérez pleinement. Donc il reprend ce thème de « vous êtes animé par l'espoir » et il dit « qu'est-ce que vous devez faire pour vraiment vivre ça ?» La première chose, c'est « soyez attentif, soyez sobre ». Dans notre chapitre, vous avez entendu ces mêmes mots. « Soyez sobre, soyez vigilant ». Pour être cette communauté animée par l'espoir, nous devons être sobres et vigilants. La sobriété, c'est quoi? C'est ne pas être, littéralement, c'est ne pas être rempli de vin. Okay? Donc la sobriété, c'est ne pas être rempli de choses qui prennent la place de Dieu. C'est faire un espace en nous pour que Dieu puisse être présent et nous guider. Et puis la vigilance, c'est être attentif à ce qui se passe autour de nous. Ayant moi-même fait du karaté dans une autre vie, je comprends bien cette injonction. Dans un combat d'arts martiaux, avant de faire le moindre geste, il y a déjà quelque chose qui se passe. Le combat commence par une sobriété intérieure qui canalise notre énergie, qui rend disponible toute notre force. Si on commence avant le combat à réfléchir à notre liste de courses pour aller à la Migros, c'est sûr que ça va mal se passer. Hein ? Il y a une sobriété qui fait qu'on est complètement disponible. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on est extrêmement attentif au moindre mouvement chez l'adversaire. Une des techniques les plus redoutables que j'ai observées chez le maître de karaté, 10e Dan, qui nous enseignait, c'était qu'il était capable de se déplacer sans qu'on arrive à détecter son mouvement, pratiquement. Quand on a détecté son mouvement, il est déjà devant nous et c'est trop tard. Ça, c'est la base du karaté, c'est le déplacement. Être attentif à ce que l'adversaire est en train de faire. Alors, ça, c'était une arme que Pierre, j'espère que je vais réussir à pas toujours mélanger Paul et Pierre. C'est que leurs messages sont tellement liés. Ça, c'est une arme que Pierre nous enjoint à utiliser pour ses deux ennemis. Maintenant, il va nous donner une arme spécifique pour chacun de ses ennemis. Le premier ennemi qui nous fait la guerre dans l'épître de Pierre, ce sont nos propres désirs charnels. Et l'arme contre cet ennemi, c'est l'attitude de Christ. Il nous dit « armez-vous de l'attitude de Christ ». Il utilise le verbe « oplizo », dont vient le mot « oplite ». L'oplite, chez les Romains, c'est le soldat lourdement armé. Armez-vous de l'attitude de Christ pour ce combat. J'ai jusqu'à 11h05. C'est ça ? Ok. Juste pour voir ce que... Ouais. Je crois que j'ai juste le temps de vous lire ce passage. Puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même attitude. Car celui qui a souffert dans sa chair en a fini avec le péché, de sorte qu'il ne vit plus le temps qui lui reste dans la chair, dans les désirs des hommes, mais dans la volonté de Dieu. L'attitude de Christ, c'est-à-dire son amour qui se donne, son amour sacrificiel, voilà l'arme ultime contre ses désirs. Voyons l'application de cela dans notre passage. Les bergers de la congrégation, les anciens, afin d'éviter les écueils du pouvoir, sont appelés à suivre l'exemple du souverain berger, lui qui est venu non pour être servi, mais pour servir. Quant à nous tous, qu'est-ce qu'on est appelé à utiliser pour combattre l'orgueil ? En nous revêtant d'humilité les uns face aux autres, à la suite de Christ, lui qui est humble de cœur. De plus, nous sommes appelés à accepter d'être abaissés par Dieu au travers des épreuves, tout en nous remettant à lui. Comme Christ s'est abaissé lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort. En effet, être libre du péché, c'est être prêt à faire la volonté de Dieu, quel qu'en soit le prix. Alors, quelle est l'arme que Pierre nous demande d'utiliser face à notre deuxième ennemi, le diable ? Le diable cherche deux choses au travers des circonstances adverses qu'il provoque. Premièrement, il cherche à nous faire du mal en réaction au mal qui nous arrive. Alors là, on est dans une situation similaire à la précédente. Au travers des épreuves, il cherche à ce que nos désirs charnels s'expriment. De nouveau, c'est l'attitude de Christ qui est l'arme. Accepter la volonté de Dieu en faisant le bien, même au sein de la souffrance. C'est ce que Pierre nous a répété et répété dans sa lettre. Deuxièmement, le diable cherche au travers des épreuves à nous déstabiliser dans notre appartenance à Dieu. Hein, est-ce que Dieu m'aime vraiment ? s'il n'intervient pas dans ces circonstances que je traverse. Comme Paul dans les Éphésiens, Pierre nous dit que l'arme ultime contre les manigances de l'ennemi, c'est la foi. Résistez-lui en étant ferme dans la foi, nous lisons dans notre passage. Lorsque nous sommes soumis à des épreuves, restons dans la foi. Et au fait, comment on peut faire ça? Pierre nous dit, en déversant sur Dieu notre anxiété, dans la confiance qu'il se soucie de nous, qu'il veut notre bien. Ces combats, tous ces combats, nous arrivent parce que nous sommes, par le fait même de notre union à Christ, des envahisseurs dans un monde où règnent les forces du mal, le péché et Satan. Nous sommes des envahisseurs du royaume de Dieu dans ce monde. Et par conséquent, nous sommes dans le combat. Nous appartenons à un autre monde. Vous êtes des résidents temporaires, choisis par Dieu. La présence de Christ, quand il est venu dans le monde, a suscité les mêmes attaques. Il est dit que Christ a été tenté en toutes choses. Et évidemment, Christ a subi la persécution. Mais Christ a triomphé. C'est en restant uni à lui, connecté à son cœur, confiant en ses plans et en son amour, et en utilisant les armes que lui-même a utilisées, que nous pouvons mener ce combat victorieusement. Je vous ai écrit en peu de mots, vous exhortant et attestant que ceci est la véritable grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est que le Père nous a unis au Fils par le Saint-Esprit. De sorte que si nous avons part à ses souffrances, nous avons part aussi à sa gloire. Notre être est lié à son être. Notre destinée est liée à sa destinée. Voilà l'espoir qui nous anime. Merci.
Merci beaucoup, Nicolas. Je pense qu'au vu de la densité du message, seule chose qui s'impose, c'est quelques minutes de silence.